RFI, 11h en temps universel, midi, ici à Paris, 13h à Beyrouth.
Grégoire Morelli.
Le Hezbollah organise aujourd'hui les obsèques d'Hassan Nasrallah, son ancien chef tué par l'armée israélienne en septembre 2024. Des dizaines de milliers de partisans sont présents. Nous serons aussi en Allemagne, où les habitants votent depuis plusieurs heures pour des législatives anticipées. Nous serons donc en ligne avec notre correspondant d'ici quelques minutes. Le pape François a passé une nuit tranquille et s'est reposé. C'est ce qu'a déclaré ce matin le Vatican, au lendemain de nouvelles inquiétantes concernant sa santé et alors que circulaient des fausses informations sur le fait que le pape renonce à sa charge, vous l'entendrez. Et puis direction la France en fin de journal, le salon de l'agriculture s'est ouvert hier. Au-delà des 600 000 visiteurs attendus, les politiques devraient s'y rendre pour la classique déambulation dans les allées. Aujourd'hui, c'est Jordan Bardella qui se prête à l'exercice. Imposante funéraille à Beyrouth du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Des dizaines de milliers de partisans de la milice chiite, vêtus de noir, ont convergé vers la cité sportive de Beyrouth pour y participer. 4000 soldats et policiers libanais et 25 000 militants du Hezbollah sont déployés pour assurer la sécurité de cet événement qui vient de débuter. Paul Ralifet, vous êtes à Beyrouth pour RFI. Au-delà de l'hommage à son chef emblématique, le parti chiite veut adresser des messages à ses amis et à ses ennemis à travers ses funérailles.
Le Hezbollah veut montrer que ses capacités de mobilisation de sa base populaire restent intactes malgré les coups durs, les pertes et les destructions qu'il a subies pendant la guerre. Ses funérailles entreraient dans l'histoire du Liban comme l'événement qui aura rassemblé la plus grande foule jamais vue dans le pays. Le parti chiite veut aussi prouver à sa base très éprouvée par la guerre et aussi à ses ennemis, Israël en tête, qu'il dispose encore d'importants moyens pour organiser cet événement d'une ampleur sans précédent. Il a déployé pour cela une logistique matérielle et des ressources humaines imposantes pour mobiliser, diriger et encadrer la foule qui a commencé à affluer vers la cité sportive de Beyrouth à l'entrée sud de la capitale. Des milliers de personnes ont commencé à converger à pied avant l'aube vers le lieu des funérailles malgré un froid glacial. De longs convois de voitures brandissant des portraits de Hassan Nasrallah et des drapeaux du Hezbollah traversent les cols montagneux enneigés en provenance de la Bekaa et du sud du Liban. Des délégations de 80 pays sont attendues, dont des personnalités politiques, des militants et des influenceurs venus des quatre coins du monde, dont les États-Unis, l'Europe et l'Amérique latine. Paul Ralifet, Beyrouth, RFI.
À savoir également que deux frappes israéliennes ont visé le sud du Liban. C'est ce qu'a annoncé ce matin l'Agence nationale d'information peu avant le début des funérailles. On reste au Proche-Orient où l'actualité, c'est aussi à Israël qui a déclaré ce dimanche que la libération des 602 prisonniers palestiniens prévue hier samedi serait reportée jusqu'à ce que le Hamas cesse d'organiser des cérémonies humiliante lors des libérations de ses otages. Le Hamas a été vivement critiqué, entre autres, par le haut commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme, Volker Türk, et pour ses mises en scène des libérations d'otages, notamment, je cite, la parade abjecte et cruelle des cercueils restitués ce jeudi à la Croix-Rouge. De son côté, le groupe palestinien a condamné cette décision israélienne qui reflète, selon lui, la volonté délibérée du gouvernement de Benjamin Netanyahou de saper l'accord de cessez-le-feu conclu le 19 janvier. L'Allemagne au cœur de l'actualité ce dimanche, jour de vote dans le pays pour des élections législatives anticipées. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 4 heures maintenant et ferment à 18 heures. Près de 60 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour un scrutin décisif qui devrait déboucher sur une alternance avec une victoire attendue du conservateur Friedrich Merz contre l'actuel chancelier, le social-démocrate Olaf Scholz. Nous retrouvons notre correspondant en Allemagne, Pascal Thibault, bonjour.
Bonjour.
Pascal, vous êtes allé vous-même voter il y a une heure. Quelle est l'ambiance sur le terrain?
Ben écoutez, on ne faisait pas la queue comme souvent ici. J'ai presque l'impression, rentrant dans mon bureau de vote, que les assesseurs se réjouissaient de ne pas avoir à s'endormir. Alors attention, ça ne veut pas dire que les Allemands boutent les urnes. En 2021, aux dernières élections, ils étaient plus de 76% à voter. Non, l'explication, c'est le vote par correspondance massivement utilisé. À Berlin, un électeur sur trois a opté pour cette solution. Et donc, ils ne se rendent pas aux urnes. Par correspondance ou sur place, en tout cas, on a donc un long bulletin à remplir avec deux colonnes et deux voix. Il faut faire une croix, l'une pour un candidat dans votre circonscription, l'autre pour la liste régionale d'un parti. Sur le net, les candidats et les partis s'activent encore pour appeler à voter et vanter leur mérite. On a vu des photos d'Olaf Scholz qui a voté à Potsdam, à côté de Berlin, et le chancelier a au moins une bonne raison aujourd'hui de faire la fête avant une défaite annoncée par beaucoup. C'est l'anniversaire de sa femme. Friedrich Merz, le favori, lui a voté dans son fief dans l'ouest du pays. La tête de liste du parti d'extrême droite, l'AFD, Alice Weidel, sans doute le grand gagnant de ce soir, appelle à voter avec au moins deux amis pour se rendre au bureau de vote. Elle conseille aussi aux électeurs d'aller ce soir avec dans les bureaux de vote pour observer le bon déroulement du dépouillement. Une remarque qui veut répandre le soupçon sur la régularité des opérations de vote.
Pascal Thibault, en Allemagne pour RFI. Le dernier bulletin de santé du Vatican publié hier soir révèle une dégradation des conditions de santé du souverain pontife hospitalisé depuis le 14 février. Des nouvelles peu rassurantes alors que, je vous le disais, circulaient déjà des fausses informations sur le fait que François renonce à sa charge. Les précisions de notre correspondant Eric Sénanc.
Depuis le début de son hospitalisation il y a 8 jours, c'est le bulletin de santé le plus alarmant sur les conditions de santé du pape. Hier, le souverain pontife a souffert d'une crise respiratoire asthmatique prolongée qui a nécessité l'application d'oxygène à haut débit, a précisé le Vatican. Le pape de 88 ans est dans un état critique et son pronostic est actuellement réservé, a également révélé le Saint-Siège. L'aggravation de l'état de l'évêque de Rome a lieu alors que circulaient déjà des rumeurs d'une éventuelle renonciation, certaines voix à Rome n'hésitant pas à mettre l'hypothèse sur la table. Sur plusieurs réseaux sociaux comme X, des fake news ont même annoncé sa mort. Dans un entretien au Corriere della Sera, le cardinal Parolin, numéro 2 du Saint-Siège, a déploré des spéculations inutiles. Vendredi soir, une première conférence de presse des médecins de l'hôpital Gemelli avait permis de balayer cette idée en rappelant que malgré son état grave, le pape restait de bonne humeur et que son cœur était parfait. Éric Sénanc, Rome, RFI.
Direction la France, où le salon de l'agriculture s'est ouvert hier. Il durera jusqu'au 2 mars. Plus de 600 000 personnes sont attendues durant toute la durée de cette 61e édition. Et après Emmanuel Macron hier, c'est aujourd'hui le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, qui arpente les allées du salon. Exercice immanquable pour les politiques de l'Hexagone. Jordan Bardella qui, lors de sa visite, a réagi à l'attaque terroriste perpétrée hier samedi à Mulhouse et qui a fait un mort et plusieurs blessés. Je vous propose d'écouter le président du Rassemblement National.
Il y a beaucoup aujourd'hui de problèmes qui touchent notre pays, des problèmes qui se répètent. Et s'agissant de ce type de profil et de ce type d'attaque terroriste, à chaque fois, ce sont systématiquement les mêmes personnalités, les mêmes profils, des gens qui sont fichés, qui sont suivis pour leur proximité avec le fondamentalisme islamiste et que nous n'expulsons pas du territoire français. Donc le ministre de l'Intérieur, il fait énormément de communication, mais maintenant il faut agir ou partir. Vous voyez, parce que les effets de com', c'est très beau quand on est à la télévision, mais quand on n'agit pas derrière, c'est la sécurité des Français qui est en jeu.
Jordan Bardella arpentant les allées du Salon de l'Agriculture, c'était au micro de Valérie Gasse. Et cette année, pour la première fois, un pays étranger est à l'honneur de ce Salon de l'Agriculture. Il s'agit du Maroc. Le pays maghrébin n'est d'ailleurs pas le seul représentant africain. Ils sont une dizaine de pays, parmi lesquels le Soudan, pays en proie à la guerre depuis 2023, Penaï Traoré.
Épices, tamarins, baobabs, gomme arabique, ce sont entre autres ces produits locaux que le Soudan propose. Si la plupart du temps, il fait l'actualité à cause de la guerre, ici, les visiteurs veulent voir un autre visage de ce pays du nord-est de l'Afrique en dégustant ses produits.
On a goûté le tamarin, que ce soit entier ou là, on le goûte en jus.
Malheureusement, je connais le Soudan plutôt par les informations internationales que par ce qu'il peut produire. Ouais. Pour le coup, c'est très très bon le tamarin. Ici, on a quand même des bons produits.
Les représentants soudanais avaient déjà essayé l'année dernière d'être présents au Salon de l'Agriculture, mais ils avaient finalement renoncé en raison de la situation politique. Fatila Al-Fadel est l'un des gérants du stand.
Cette année, on a essayé malgré toutes les difficultés. Et c'est vraiment important qu'on soit ici aujourd'hui parmi tous les pays qui participent à ces grands événements. En fait.
Et malgré tout ce qui se passe dans votre pays au Soudan, c'était très important pour vous d'être là?
Oui, oui, c'est absolument important. C'est déjà pour montrer c'est quoi le Soudan. Mais c'est de dire que oui, nous on existe malgré tout. Et il ne faut pas abandonner et pour ça on est là aussi. En fait.
Le Rwanda, la République démocratique du Congo, le Sénégal, l'Algérie et le Cameroun sont également représentés à cette 61e édition du Salon international de l'agriculture.
Penaï Traoré pour cette fin de cette édition. Le Salon de l'Agriculture, c'est jusqu'au 2 mars, hein, l'occasion de découvrir la richesse agricole française, mais aussi d'ailleurs, vous l'aurez compris. Voilà donc pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain journal consacré à l'actualité internationale, ce sera d'ici une cinquantaine de minutes. D'ici là, très bonne suite des programmes à l'écoute de la Radio du Monde.